J'ai Tigrane qui est avec nous. Bonjour Tigrane.
Bonjour.
Vous m'entendez bien ? Parce que toujours...
Très bien, merci.
Voilà. Tigrane ou Tigrane ?
Tigrane, en fait, il n'y a qu'en français qu'on nasalise les noms. Mais en arménien, puisque ma mère était d'origine arménienne, même un prénom qui ne comporte pas de E à la fin, comme dans toutes les langues, n'est pas nasalisé. Donc c'est bien Tigrane à l'origine.
Alors, à l'origine, vous êtes à l'origine d'une grande saga qu'on appelle Chaman, qui a démarré il y a quelques temps, avec l'aventure mongole, c'est ça ?
Une première trilogie, l'aventure mongole, qui a été suivie par une deuxième trilogie, l'aventure amérindienne.
Et qui, le sujet de notre discussion aujourd'hui, c'est la troisième trilogie, l'aventure stellaire, avec la messagère des arbres aux éditions Mama, dont vous êtes, je pense, le fondateur des éditions.
Oui, j'ai cofondé les éditions Mama avec Mishka Seliger Châtelain il y a quasiment 25 ans, effectivement.
D'accord. Dans la première saga, enfin le premier tome, l'aventure mongole, on se demande si c'est autobiographique ce que vous écrivez.
Oui, tout ce qui est souvenirs d'enfance, d'adolescence et encore récemment quand j'ai accompagné ma mère puis mon père pour le grand départ, ce sont des récits totalement autobiographiques où j'ai gardé les noms, les dates, les lieux, les gens sans rien y changer. En revanche, ils appellent ça des contes autobiographiques ou plus exactement des contes initiatiques. C'est parce que ce qui, dans la vraie vie, comme on dit aujourd'hui, a mis une trentaine d'années à se déployer, de mes 20 ans où j'étais diplômé de musicologie en Sorbonne, j'ai basculé vers l'ethnomusicologie et la rencontre des peuples autochtones, des peuples premiers, des musiques de trance, des chamans, des guérisseuses, des femmes médecines. Donc ce qui a mis 30 ans à se déployer à partir de là, donc de 20 ans à 50 ans, semble se passer en un an, dans l'aventure mongole, en 2 ans en Arizona, dans l'aventure amérindienne, car j'en ai fait des contes pour en retransmettre l'essence pour le plus grand nombre, y compris à des gens pas du tout initiés, ni spécialisés dans le chamanisme, ni même préparés, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas prêt.
Dans le premier tome, justement, le mongol, l'aventure mongole, vous êtes frappé par la foudre, si c'est autobiographique, ce qui est un signe, hein, c'est ça ?
Oui, c'est impressionnant. C'est quelque chose qui m'est arrivé, qui est transposé dans ce conte. Donc, c'est quelque chose qui m'est arrivé et qui est raconté comme tel. J'ai gardé l'endroit exact, etc. En Sardaigne, quand j'ai été pris dans un orage et dans un balai d'éclairs et de tonnerres, j'ai été frôlé par la foudre. Je suis tombé, j'ai violemment heurté le sol, je suis resté sur le carreau pendant quelques minutes avec des séries de spasmes, une perte de conscience, des tremblements et finalement un évanouissement. Les gens autour de moi et notamment l'ami qui m'accompagnait a cru que c'en était fini, que j'allais mourir sur place ou que peut-être j'allais rester paralysé ou avec un dommage cérébral à tout jamais. Je suis parti pour elle, dit-elle, quelques minutes. Moi, c'est une expérience qui, pour moi, a duré une éternité.
C'est un petit peu comme vos romans, donc sur 20 ans, nous, on prend qu'une année. On peut un petit peu expliquer l'histoire, parce qu'il y a des personnages. Il y a Tangri qui vous ressemble énormément. Je pense que c'est vous, d'ailleurs, puisque c'est le narrateur, non ?
Autobiographique et adapté. En fait, tout démarre lorsque le narrateur jeune dans le premier tome embarque pour la Mongolie en pensant n'y passer qu'une quinzaine de jours et en échange de s'occuper du bétail, des rennes, des yaks, puisqu'on est chez les Tsatans au nord de la Mongolie, le dernier peuple nomade éleveur de rennes. En échange de 15 jours, il va avoir le gîte et le manger dans la yourte ou dans le tipi qu'on appelle là-bas un yurts. Mais en fait, la doyenne du village, la femme qui paye le moins de mine, donc la femme la plus âgée, va le voir, non pas au premier sens du terme, mais au sens figuré, au sens plutôt chamanique du terme, et contre toute attente, s'apercevoir que son fils spirituel, c'est lui, et non pas un des membres de la tribu, comme ça arrive d'ailleurs de plus en plus souvent dans différentes tribus, aussi bien en Amérique qu'en Asie. Et donc, de grand-mère adoptive, elle va devenir sa mère spirituelle et son mentor des années durant.
On la suit, donc on découvre sa femme, l'amour de sa vie, et puis Seta, l'enfant. C'est ça. Hein.
C'est sa fille qui naît, leur fille qui naît donc à la fin du premier tome de l'aventure mongole qui s'appelle La Quête, donc le tout premier opus de cette saga. Seta naît à la fin donc de La Quête avec, de par sa naissance, une sorte de message au-delà des mots et au-delà du verbe. Lorsque le narrateur comprend, après avoir cherché sa demeure à l'extérieur, sa maison à l'extérieur, après différents épisodes difficiles d'abandon avec les parents, de solitude, etc., la naissance de cette petite fille va lui faire toucher du doigt que le cœur est en fait sa vraie demeure et que ce que l'on cherche bien souvent à l'extérieur, chez lui, il va finalement le trouver à l'intérieur. Une trilogie plus tard, avec l'aventure amérindienne, on retrouve Seta, 10 ans plus tard, et une traversée du Pacifique plus loin, en Arizona, où elle va commencer à être formée au contact notamment des Navajos et de certains héritages qui viennent plus des Lakota, des Dakota, donc d'Amérique du Nord. Et elle va être préadolescente dans cet Arizona de la roue de médecine, des femmes de connaissance et de pouvoir, donc un autre type de chamanisme, après le chamanisme du froid et du tambour des steppes d'Asie centrale, un chamanisme du chaud et des déserts, on pourrait dire, avant d'en arriver au livre qui sort maintenant, donc La Messagère des Arbres, où là, ça a une 15aine d'années, et où elle va reconnecter avec un type de chamanisme officiellement disparu, qui est le chamanisme du bois secret, le chamanisme des forêts, qui est un chamanisme qui en fait survit encore de manière très cachée et confidentielle, et qui est un chamanisme beaucoup plus féminin au contact du monde végétal, où les arbres sont des maîtres, mais des maîtres au sens premier du terme, c'est-à-dire des guides qui nous enseignent, où dans certaines traditions on sait encore entendre les arbres, entendre pas forcément avec une trame verbale et linéaire et mentale, mais les ressentir en termes de vibrations, de résonance, quitte à en recueillir des messages qui finissent par se traduire dans les mots et qui sont donc transmissibles à toutes et à tous. Ouais.
Donc dans ce nouveau tome, l'aventure stellaire, la messagère des arbres, donc on s'intéresse beaucoup plus particulièrement à Seta. Et c'est vrai qu'elle a ce rapport aux plantes, c'est-à-dire qu'à un moment, elle est avec un mélèze, je crois, hein, qui lui... Oui. Au début, ce ne sont pas des mots, c'est des sons un peu étranges, et puis petit à petit, ça prend forme. Ce sont des choses que vous avez vous-même vécues, vous retranscrivez des choses concrètement réelles, ou est-ce que ça fait partie de votre imaginaire?
Non, alors moi ce que je fais en termes d'adaptation, c'est plutôt de simplifier les choses, d'en retirer un éventuel matériel cryptique, mais il n'y a absolument rien d'ésotérique là-dedans. C'est quelque chose de très pragmatique que ces méthodes, ces initiations, ces étapes, ces outils utilisés depuis la nuit des temps par les peuples autochtones qui est au cœur donc des savoirs indigènes, des savoirs ancestraux, que ce soit en Asie ou en Amérique, c'est-à-dire principalement dans le chamanisme, mais pas que dans le chamanisme. Il n'y a pas besoin d'être forcément obnubilé par le chamanisme du bout du monde. Eh bien, la reconnexion à la nature, pour parler simplement, y compris dans nos campagnes européennes et même françaises, de tout temps, nous avons eu parfois des rebouteuses, des barreuses de feu, des magnétiseurs, parfois des simples du village, vraiment des personnes qui payaient pas de mine, ou au contraire, dans nos traditions celtiques, des druides et autres, qui gardaient bien vivant ce contact avec la nature. Et au-delà d'un contact, c'est une véritable osmose, c'est une transmission qui vient du règne animal, du règne végétal, aussi du règne minéral et des éléments, puisque dans ces traditions-là, comme dans le chamanisme, on ne considère pas comme nous aujourd'hui occidentaux qu'on a besoin de se reconnecter avec la nature dont on serait séparé. Au cœur de toutes ces traditions, un des messages fondamentaux, c'est que nous ne marchons pas parmi la nature, nous sommes la nature.
Nous en faisons entièrement partie. Dans ce tome 1 de l'aventure stellaire, Seta nous envoie un grand message, reçoit un grand message. Il faut arrêter de faire souffrir les animaux. Même elle, en tant que personne qui a besoin de chasser, doit s'arrêter. Hein, c'est ça, une voix lui parle au moment où elle allait tirer sur une biche.
Ouais, c'est ça, un moment où elle allait décocher sa flèche, mais dans le cadre très ritualisé, pour ne pas dire sacralisé, d'une chasse qui n'a lieu qu'une fois par an, à l'équinoxe, quand la durée du jour, égale celle de la nuit. Eh bien, une fois qu'elle a prouvé sa capacité à survivre parmi les forêts et survivre seule, qu'elle a respecté ses traditions, honoré ses ancêtres, honoré la tradition chamanique qu'elle reçoit de façon matrilinéaire par en quelque sorte une sorte elle aussi de grand-mère adoptive, il y a une étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est qu'il y a un changement de paradigme, c'est que le fruit est mûr pour, en quelque sorte, tourner la page d'un chamanisme qui a peut-être été plus guerrier, plus marqué par, le masculin, le rapport aux animaux, un chamanisme, des plaines, des steppes, et finalement retrouver cette connexion avec ce chamanisme plus féminin lié au règne végétal, où on ne tue pas d'animaux, ni pour honorer des ancêtres, ni pour quelque rituel que ce soit. Et ça, c'est quelque chose qu'elle va, elle, incorporer, qui va la mettre à l'avant-garde de l'évolution de son clan, de sa tribu, qui lui n'en est pas là, qui pratique encore évidemment la chasse, que ce soit pour des rituels ou des mises à l'honneur. Mais là, la roue tourne et il est temps pour elle de reconnecter avec le végétal et de tourner la page une fois pour toutes de la souffrance animale.
C'est le message qu'elle doit porter, mais ça va être un petit peu compliqué. Je crois que c'est même sa mère, hein, qui lui dit, essaye de l'expliquer aux membres du clan, parce qu'ils sont très très
Oui.
ancrés dans la chasse et dans ce besoin de se
Oui,
nourrir.
la grand-mère spirituelle, Hotarjanat, qui est la doyenne du clan et qui est, en plus d'être la chef spirituelle, la chamane, la guérisseuse de cette tribu chez les Tsatanes. Elle-même, ça voudrait dire ne plus respecter des traditions qui remontent loin, loin derrière. Mais parfois, la roue tourne, le monde change et le chamanisme, qui est source de transformation à l'échelle individuelle, peut-être est quelque chose qui se transforme lui-même en phase avec non plus telle ou telle tradition, tel ou tel dogme, telle ou telle religion, telle ou telle croyance. Mais tout simplement et plus fondamentalement en rapport avec la terre-mère, ce que d'autres appellent la Pachamama, ce que nous on a appelé parfois Gaïa, et en considérant que cette terre qui nous abrite tous, qui que nous soyons, nous sommes sur ce même navire que nous partageons, qui nous nourrit, nous fait respirer, nous abreuve, eh bien, si cette terre-mère a un message à faire passer, d'ailleurs souvent très convergent aujourd'hui, à travers différents peuples autochtones, différents transmissions dites indigènes, c'est une forme de respect et de compréhension sensible qui peut-être peut nous apprendre à ne plus user et abuser de ce que ces peuples considèrent comme notre mère. La terre-mère, donc, ne plus la violer, ne plus en extraire de façon outrancière les minéraux, ne plus maltraiter le végétal comme l'animal, mais être à son écoute et ne faire qu'un avec elle pour retrouver une paix et une sérénité qui semblent parfois faire cruellement défaut aux Occidentaux.
On entre dans votre univers, dans cette saga et dans ce tome, L'Aventure Stellaire, dans un monde extraordinaire où les humains peuvent communiquer avec les plantes, là, donc c'est le cas avec Seta, où on reçoit des messages de chamans qui ont peut-être disparu, d'ancêtres qui sont dans la mémoire et dans les arbres aussi également, où les enseignements sont dans les plantes. On découvre l'homme-loup qui vit avec une meute de loups, qui est le grand-père de Seta. C'est un univers assez extraordinaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment connu vous-même? Dans vos
Alors, c'est
différentes.
quelque chose, encore une fois, que je transpose, c'est-à-dire que j'ai connu de près des chamans colombiens, péruviens, des femmes médecine navajo ou des femmes de pouvoir de Sibérie, très très traditionnelles, des guérisseurs en Indonésie, des maîtres de transe, que ce soit en Afrique du Nord ou en Australie, etc. Il y a là pour moi avant tout la mission, si je puis dire, en toute humilité, de rendre accessible et à la portée de toutes et tous le cœur, en fait, de certaines pratiques et de certains enseignements. Ce que je veux dire, c'est que au-delà de cette extraordinaire biodiversité, de ces diversités de méthodes, d'outils, avec ou sans tambour, avec ou sans plante, avec ou sans telle ou telle croyance, il y a fondamentalement, quand il y a urgence à faire bouger les lignes, parce que quelqu'un est dans l'urgence pour une douleur physique ou pour une affection psychique, un désordre émotionnel, un vague à l'âme ou une dépression qui s'installe, il y a finalement derrière toute cette biodiversité de cultures et de techniques peut-être une source commune. Et ma question est que lorsqu'il y a urgence à faire bouger ces lignes pour le bien et le soulagement de son prochain, est-ce que finalement, de ces différents continents éloignés, ces traditions chamaniques qui aujourd'hui fascinent, mais au-delà de cette mode qui parfois est simplificatrice, y compris dans nos campagnes européennes et françaises, est-ce que finalement, dans ces moments d'urgence et de soins, on ne puise pas tous à la même source ?
D'accord. Dans votre livre, L'Aventure stellaire, on parle beaucoup de chamanisme, évidemment, mais il y a aussi une très très belle histoire d'amour qui se dessine entre deux continents très très éloignés, hein, un de neige et de glace et l'autre de sable et de soleil, enfin de chaleur brûlante.
Oui, effectivement, puisque l'héroïne, Seta, du haut de ses 15 ans, commence à être habitée et traversée par des visions, une sorte de préscience ou de clairsentience, comme on dirait aujourd'hui, d'un jeune homme qui, lui, a 16 ans et qu'elle identifie comme étant sans doute dans le désert de Gobi, où on a des chameaux et des dunes de sable orangées, etc. Mais en fait, ce sont des dromadaires et il s'agit des dunes du désert du Sahara et de l'Égypte, l'Égypte actuelle, mais qui est aussi, par certains aspects encore, à travers son archéologie secrète et certains lieux sacrés, un portail vers la haute antiquité égyptienne et peut-être certaines connaissances, transmissions et enseignements qui continuent de fasciner au-delà du temps. Donc il y a cette sorte de relation platonique et on pourrait dire en quelque sorte parfois astrale, parfois onirique, entre Seta, qui du haut de ses 15 ans en Mongolie perçoit la présence de ce qu'elle pourrait ressentir comme un frère d'âme, comme quelqu'un à qui elle est promise, sans comprendre vraiment si cette personne existe ou pas. Cette personne existe bien, mais dans notre réalité tridimensionnelle, ils ne se sont pas encore rencontrés. Ça ne veut pas dire pour autant que sur un plan peut-être d'âme et de cœur, ils ne se sont pas déjà donné rendez-vous pour se trouver, voire se retrouver.
Et d'ailleurs, ils se voient tous les deux, chacun en rêve ou dans un état modifié de conscience, peut-être, en tous les cas, du côté du jeune Yacine, hein, je crois, oui. son prénom. C'est pareil, c'est un drame qui va lui ouvrir quand même une porte.
Et il va lui, voilà. Souvent, on s'aperçoit que dans ces parcours, parfois de guérisseuses, de femmes médecines, de chamanes, de vins, mais aussi parfois, encore une fois, sans être forcément omnubilé par les chamanismes du bout du monde, la plupart des magnétiseuses, barreuses de feu, coupeuses de feu, rebouteuses et autres guérisseurs de nos campagnes bien françaises, finalement, quand on parle avec eux et qu'on finit par avoir l'honneur et le bonheur de leur amitié, on s'aperçoit que certaines des étapes initiatiques de leur parcours, certains des jalons les plus transformateurs, ne sont pas des grandes épiphanies, des illuminations, des révélations extatiques, mais sont parfois des événements qui, sur le moment, semblent très malheureux. Peuvent être des accidents, peuvent être une maladie parfois, un deuil, un choc traumatique, et qu'à la faveur de ce qui se présente comme un véritable obstacle, un écueil, eh bien eux, et c'est là tout l'art de la transmutation, eux vont finalement se servir de cet écueil, de cet obstacle, comme d'un tremplin. Et c'est cette expérience négative sur le moment qui va prendre tout son sens avec le temps et se révéler être un trésor de transformation. Le proverbe dit « ce qui ne nous tue pas nous renforce ». C'est effectivement ce que j'ai reconnu dans nombre des témoignages et des parcours de vie de ces personnes qui, avant de pouvoir aider les autres, avant de faire le bien à leur manière et parfois de façon extrêmement mystérieuse, ont dû affronter des parts d'ombre, des accidents, des épreuves. Mais au lieu de baisser les bras, de prendre peur et de se dire que c'était trop pour eux, il y a un dénominateur commun, c'est qu'ils ont utilisé leur courage, et peut-être là rappeler que courage étymologiquement vient aussi du cœur, leur courage pour voir au-delà de cet obstacle et pour voir dans cet écueil non pas le mur qui va nous arrêter, mais le mur que l'on va enjamber et qui va nous obliger à sortir de notre zone de confort, à grandir et à découvrir un nouvel horizon au-delà de qui l'on croyait être.
Ce sont des contes initiatiques. Au fil des 7 tomes, vous pensez que, justement, ça peut nous aider à grandir, à changer de paradigme, peut-être ?
Alors, je n'ai pas la prétention, bien sûr, d'assurer quoi que ce soit, mais je constate, en tout cas, que pour avoir maintenant des dizaines de milliers de lectrices et de lecteurs et énormément de retours, il y a peut-être dans cette transmission et cette simplification de certaines forces, de certains enseignements, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui aussi peut-être certaines vibrations du cœur, de l'âme, du soin, du verbe créateur, quelque chose qui fait du bien aux gens, qui résonne et qui parfois vient souffler sur des braises. Il y a tellement de choses en nous dont on ne sait plus qu'on les sait et qui sont là, dormantes, mais pourtant, ces braises sont bien là. Et parfois, comme on le sait, une expérience qui, pour certains, peut être un sublime coucher de soleil qui sort de tous les couchers de soleil déjà vus et qui nous reconnecte avec un sentiment d'ineffable, de relation au cosmos, voire même un sentiment théogène du divin en soi. Pour d'autres, ça peut être un chemin ardu et éprouvant de transmission et d'initiation. Pour d'autres, c'est une ascèse, une hygiène physique et mentale, un parcours spirituel, religieux ou pas religieux. Il y a autant de chemins qu'il y a d'humains. Mais pour d'autres, enfin, ce sont aussi des livres ou des livres qui nous aident à la manière de guide et de maître. Et on sait bien la différence, je crois, chacun de nous, qu'il y a entre certains livres qui sont des produits, on pourrait dire, et d'autres livres qui sont littéralement des œuvres de l'esprit. Je ne fais pas là de mysticisme, cette expression des œuvres de l'esprit, c'est le qualificatif technique exact du code des impôts en France. Donc, c'est bien quelque chose qui, tout en étant extrêmement rationnel et rigoureux, nous rappelle quelle est la nature profonde de ces ouvrages qui sont aussi là pour nous éclairer, nous transmettre et nous accompagner à la manière d'un grand maître que parfois on n'a pas la chance d'avoir à côté de soi.
Évidemment. Que vous avez eu la chance de côtoyer, de fréquenter pendant plusieurs années, je crois que 30aine d'années de votre vie, hein, c'est ça?
Oui, ça a commencé par une retraite auprès du Dalai Lama dans les Pyrénées, à côté de Lavaur, j'avais 20aine d'années. Et l'ethnomusicologie m'a ensuite propulsé lorsque je suis allé enregistrer des musiques de trance, que ce soit au Sri Lanka, au Thaïlande, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Australie, en Russie, en Amérique. Bref, dans différentes contrées qui apparemment n'ont rien à voir, m'ont ramené effectivement dans la proximité de doyennes et de doyens qui, tout en étant parfois extrêmement simples et très très peu verbaux, avaient ce dénominateur commun d'enregistrer par la présence. On dit parfois qu'il faut juger l'arbre à ses fruits, et c'est peut-être là la signature des grands, c'est qu'ils ont une humilité et parfois une simplicité d'apparence aux antipodes de tout gourou, de toute personne qui s'entoure d'une certaine aura, d'un prestige inaccessible, etc. Il y avait là une simplicité dans leur façon, après avoir voyagé loin spirituellement et peut-être énergétiquement, dans leur pratique des soins notamment, une façon de revenir sur Terre au quotidien avec des gestes très très simples et une manière de s'ancrer, ce qui est le plus important, car dans la mode du chamanisme actuel, qui peut être très dangereuse, il faut faire attention, on apprend beaucoup aux gens à ouvrir les portes comme si tout le monde allait devenir chaman en 2 jours. Je crois que ça n'est pas exact et ni même souhaitable. Je crois que l'enseignement beaucoup plus important que celui d'ouvrir les portes, c'est celui qui est au cœur de ces traditions qui, elles, ont des millénaires d'ancienneté, et c'est plutôt de savoir avant tout refermer les portes.
Et puis de découvrir qui on est, quelle est notre mission réelle, peut-être, sur Terre.
Oui,
C'est un petit peu le thème de vos livres aussi.
c'est vraiment vous avez raison de le souligner, c'est vraiment la clé de voûte de ces différents parcours, qu'ils soient très archaïques ou très raffinés. Finalement, on en revient à quelque chose d'universel. Et ce point central, c'est qu'il n'y a pas de questions qu'on puisse se poser dont les réponses ne soient pas en fait déjà en nous-mêmes. C'est quelque chose de très puissant quand, au lieu de donner nos propres clés en quelque sorte à des aides extérieures, même si on a souvent bien sûr besoin d'aide et c'est normal, mais si au lieu de chercher toujours à l'extérieur auprès d'un coach, d'un guide, d'un maître, d'un chaman, aussi prestigieux soit-il, on se rappelle que personne, absolument personne sur Terre n'est plus près de votre petite voix intérieure, n'est plus près de votre cœur que vous-même. Alors on a fait finalement, après bien des détours, un trajet essentiel qui boucle la boucle et qui fait écho à nos propres traditions judéo-chrétiennes ou gréco-romaines, sans aller au bout du monde et dans les traditions chamaniques que je respecte. Nous avons aussi des phrases clés qui sont gravées depuis les millénaires, comme connais-toi toi-même.
Et la source est en nous, en quelque sorte. En tous les cas, c'est un très beau cadeau à la veille des fêtes à faire, parce qu'il y a une très très belle collection de très beaux livres, avec en plus un message, une initiation, un enseignement au fil de ces ouvrages, de ces 6 ouvrages, dont le 7e est en train de paraître actuellement, l'aventure stellaire avec Seta et la messagère des arbres. Mais on peut également retrouver la pensée, la philosophie de cette saga, oui, à travers votre dernier livre également, les 52 paroles chamanes.
Oui, j'en ai un justement là, ce petit ouvrage, les 52 paroles chamaniques, c'est oui, en fait comme 52 oracles, hein, qui sont illustrés ici par une trentaine d'encres de Chine, pour ne parler pas seulement qu'au cerveau gauche, au mental avec les mots, mais aussi au cerveau droit avec l'image et l'évocation, parfois réaliste, parfois à la limite de l'abstrait. Car comme disait Lao Tzu, en quelque sorte, la voix qui peut être décrite n'est pas la voix. Donc là, ces 52 paroles chamaniques, ce petit ouvrage d'oracle et ce qu'on appellerait là-bas des phrases de pouvoir, et qu'on a aussi, nous, parfois, sous forme de proverbes, en fait, dans nos traditions européennes, ce sont des phrases clés qui auraient, selon ces différents maîtres, mais parfois aussi selon l'esprit d'un animal de pouvoir, ou la petite voix intérieure, ou la voix d'un ancêtre défunt qui nous visite en rêve, des phrases qui ont, par leur vibration et leur concision, le pouvoir de nous reconnecter plus qu'à notre mental et notre esprit, à notre cœur et à notre âme. Donc, ce sont des phrases qui sont volontairement très très courtes et qui, pour des gens qui ne sont pas forcément portés vers la lecture d'un conte chamanique, peuvent être une première porte pour entrouvrir les voiles de quelque chose qui recouvre parfois de façon tenace des vérités intemporelles qui sont en fait en chacun d'entre nous et que l'on retrouve avec des variations de forme des cultures amérindiennes aux cultures mongoles, aux cultures judéo-chrétiennes, à l'antiquité gréco-romaine. Ces 52 paroles chamaniques, elles peuvent venir ici d'une chamane, d'un devin, d'une femme médecine, mais aussi parfois d'une sage-femme traditionnelle qui en fait est également passeuse d'âme, ce qui peut-être rime avec qui étaient les premières chamanes.
En tous les cas, si vous n'aimez pas lire, vous qui nous écoutez, il y a 52 paroles, ça fait une parole par semaine pour l'année 2025. Je pense que c'est faisable, même pour ceux qui ont du mal à lire. Tigrane, si on veut vous rencontrer ces prochains jours, je crois que vous êtes à Lille le samedi 30 novembre pour une conférence à 15h à la librairie Le Monde d'Uranie. Vous êtes le vendredi 6 décembre à Versailles, à une conférence à 19h15 avec une séance de dédicace à la librairie Personnalité. Et le 7 et le 8 décembre, vous serez au Salon du Livre de Boulogne-Billancourt et vous ferez des rencontres et des dédicaces à partir de 14h.
Vous connaissez mon agenda encore mieux que moi.
Bah, j'ai votre Linktree, donc c'est vous qui avez mis tous les liens sur votre page personnelle. Je vous remercie. Je conseille à nos auditeurs d'aller visiter et d'aller les éditions Mama, par exemple, pour voir tous vos livres et de rentrer un petit peu dans ces trois aventures, là, celle qui vient de Mongolie, celle de l'Amérique indienne, l'aventure amérindienne, c'est ça, et l'aventure stellaire qui vient de sortir, le top 1 avec la messagère des arbres. Merci beaucoup, Tigrane.
Merci infiniment à vous et à toutes vos auditrices et vos auditeurs. Merci encore.
Au revoir.